Alors, il me fait vraiment plaisir de vous accueillir ce soir à cette deuxième conférence de notre cycle du CRDP qui porte sur le texte mis à nu, où on essaie de décortiquer le texte juridique. Et le conférencier de ce soir est une personne particulièrement éminente pour traiter du sujet de la traduction des textes juridiques. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'accueillir le professeur Jean-Claude Gémard, qui est professeur émérite à notre université du département de linguistique et traduction et qui détient deux doctorats. Donc, pour tous les étudiants au doctorat ici, sachez que c'est possible de continuer d'en faire d'autres. Pardon?
Il faudrait en terminer un,
hein, peut-être. Ah oui, non. Et après un, il y en vient un autre. Et comme en fait, on ne dit jamais deux sans trois, on ne sait jamais ce qui va arriver. Alors, M. Gémard détient un doctorat en droit de l'Université de Toulouse et un doctorat en lettres de la même université. Sa thèse portait sur les fonctions de la traduction juridique en milieu bilingue, le cas du Canada. Donc, je crois que c'est vraiment la personne dédiée pour parler de la question de la traduction ici. Il est officier de l'Ordre du Mérite et il a également les palmes académiques en France. Avant de venir ici, il a quand même été professeur à l'Université Laval. Et en plus de ses fonctions à l'Université de Montréal, il a été chargé de mission pour l'OPELF, pour la francophonie, pour des questions de traduction et pour des questions de littérature. Et ces publications comprennent divers ouvrages, dont des difficultés du langage du droit au Canada, traduire ou l'art d'interpréter. Et il a également été collaborateur au dictionnaire CREPO, le dictionnaire de droit privé qui a été chapeauté par le professeur CREPO à l'Université McGill. Alors, aujourd'hui, l'intitulé de son texte, de sa présentation plutôt, c'est « De la traduction juridique à la jurie linguistique entre droits et langues ». Et je crois vraiment qu'on ne peut pas avoir de personne plus éminente pour traiter ce sujet. Alors, il me fait vraiment plaisir de vous laisser la parole.
Merci infiniment de cette présentation. On se sent tout humble et modeste après tout cela, parce que le sujet de la jurie linguistique que je traite n'est que une annexe peut-être, une sorte de discipline auxiliaire au droit et pour les juristes que vous êtes, la plupart d'entre vous. Donc la question de la jurie linguistique, comment dirais-je, si elle est partie de la traduction juridique en ce qui me concerne, ce n'est qu'une approche entre mille approches possibles. Hein. On peut aborder le texte juridique du point de vue littéraire, il y a des Canadiens de langue anglaise, mais française aussi, qui ont publié de nombreux ouvrages sur la question. On peut partir de l'histoire, de la sociologie, de la philosophie, de la psychologie et de beaucoup d'autres disciplines pour aborder le droit. On a déjà vu une analyse psycholinguistique du code civil, du code Napoléon, n'est-ce pas ? Donc vous voyez que le texte, le langage peut être abordé de bien des façons. Alors, si j'ai intitulé cette conférence de la traduction juridique à la jurie linguistique, ce n'était pas pour parler pendant 40-45 minutes de la traduction juridique exclusivement, mais pour amorcer le débat, si vous voulez, la discussion sur cette jurie linguistique. Parce que la traduction juridique n'est, comment dire, qu'un déclencheur, en fait, pour le Canada, un déclencheur de la jurie linguistique. Ce n'est pas le seul. La jurie linguistique est beaucoup plus vaste que la traduction, fut-elle juridique, d'ailleurs. La jurie linguistique le dépasse largement ce cadre. C'est quelque chose qui touche au texte juridique de très près, mais sous toutes ses formes, depuis sa conception jusqu'à son interprétation, sa traduction, en passant, sa révision, sa réforme, hein, la réforme des textes, la réforme administrative en France, la réforme des textes, des formulaires, de toutes les façons. Et donc, on trouve cet exercice de la jurie linguistique aussi bien dans le domaine public que privé, et peut-être dans le domaine privé beaucoup plus large encore que dans le domaine public, puisque dans le domaine public, traditionnellement pour nous au Canada en tout cas, la jurie linguistique s'exerçait autour des lois. avec la corrélation qui s'est rendue célèbre dans le monde entier, qui a fait de nombreuses émules en Europe, dans la Suisse notamment, la Belgique, et d'autres pays bilingues et multilingues. Elle s'est répandue un petit peu partout dans le monde. Et pour amorcer le sujet, vous avez cette citation que je mise en exergue, pour bien faire voir où se situe la jurée linguistique. Pour moi, elle ne se situe pas dans le droit. Vous êtes des juristes, c'est vous qui contribuez à faire le droit. Moi, je ne fais que l'interpréter, le texte, en quelque sorte, le traduire. Je ne le fais pas. À la rigueur, je le fais connaître, le jury linguiste. La jury linguiste fait connaître le droit, mais il ne le fabrique pas, il ne le crée pas. On reviendra là-dessus, bien sûr. Tu vois ? Donc, le fait que les langues diffèrent n'est pas à considérer comme un accident regrettable, ce que pensent beaucoup, c'est un accident regrettable, mais doit être considéré comme une conséquence inéluctable de la nature du langage. Ce qui fait que, comme traducteur, et sans entrer dans les théories de la traduction, vous le savez, depuis Worf et Sapir, et beaucoup d'autres encore, on considère que la traduction serait impossible parce que les langues diffèrent. C'est leur nature. Il est normal que les langues diffèrent. S'il n'y avait qu'une seule langue, nous le parlerions tous, et nous n'aurions peut-être pas autant de difficultés de communication. Quoique. Alors, pour amorcer le sujet, je voulais prendre le livre que certains d'entre vous connaissent bien, et juste citer l'auteur de la préface, qui est Jean Guibellet, le directeur du centre de recherche, justement, qui parcourt la discipline et qui dit « La discipline a essaimé et s'est internationalisée, comme en témoigne la filiation institutionnelle des auteurs, la dispersion géographique des phénomènes linguistiques et la multiplicité des pratiques langagières dont les fonctions, les difficultés sont étudiées. » Et ce qu'il dit surtout, c'est que on s'interroge au point de savoir, avec étonnement, que la jurée linguistique, peut-être partie du Canada, je ne peux pas l'affirmer, urbi et orbi, a essaimé un peu partout dans le monde. Et cela est reconnu par les propres paroles même de M. Jean Guibellet. Alors, cela contribue à faire de la jurée linguistique une discipline à part entière, ou presque, puisqu'elle se fonde sur les deux piliers multiséculaires que sont le droit et la linguistique, ou la linguistique et le droit, on verra cela peut-être dans les questions qui viendront tout à l'heure. Lorsque ces deux disciplines, ces champs du savoir, se combinent harmonieusement, ce n'est pas toujours le cas, pour produire des textes juridiques mieux composés, plus accessibles, et bref, en quelque sorte plus lisibles, surtout que ceux d'hier. Cela dit, comme le fait remarquer Gérard Cornu dans sa linguistique juridique, qui est abondamment cité dans cet ouvrage, la jurée linguistique ne figure pas à la nomenclature des branches du savoir. Elle n'a pas accédé à ce statut de discipline à part entière, comme peut le faire l'avoir fait la linguistique ou le droit. Et évidemment, il faut peut-être replacer les propos de Cornu dans son contexte. Il parle d'une jurée linguistique française unilingue, qui est la sienne, qui n'est pas la nôtre, celle du Canada, bien entendu, ou celle du Québec, qui sont aussi bilingues et même multilingues, puisque maintenant on a l'espagnol avec l'ALENA, NARTA, comme vous savez bien. Et cela depuis que les langues du droit, l'anglais et le français, sont entrées dans ce dialogue séculaire, ininterrompu en tout cas au Canada, et ce dialogue qui est extrêmement complexe. Vous le savez aussi bien que moi, il est complexe parce qu'il est fragile, et cette complexité est reconnue, elle est dénoncée, observée, analysée par tous les meilleurs esprits juridiques, comme linguistiques d'ailleurs, qui voient un objet d'étude intéressant, mais aussi un objet d'étonnement permanent. Et le doyen Cornu parle de paroxysme de la complexité, à notre égard. Quand il parle du bilinguisme et du bijuridisme canadien, il dit, pour lui, que c'est le paroxysme de la complexité. Et c'est une expression troublante pour nous. Des linguistes comme Georges Mounin, Jean-Paul Vinet, considèrent que la traduction au Canada représente l'archétype des difficultés que présente l'opération traduisant. Ça, on le sait depuis longtemps. Nos traducteurs transcendent ces difficultés dans l'ensemble. L'auteur du Dictionnaire de la justice, paru au PUF en 2004, Loïc Cadier, est fasciné par ce qu'il appelle le deuxième plus grand pays au monde, État juridiquement, je le cite, institutionnellement et linguistiquement complexe, dont l'intérêt principal se trouve dans la réconciliation de ces régimes juridiques multiples. Donc, vous voyez, un petit peu à l'échelle internationale limitée, relativement, ce que l'on pense de la complexité de notre situation, cela se reflète évidemment dans les textes. Si j'en crois à mon expérience et quelques observations, la géolinguistique vise à apporter aux praticiens des éléments de solution. Des éléments de solution pour produire des textes juridiques, qu'ils soient traduits ou non, peu importe, unilingue, bilingue ou multilingue, hein, on va voir tout à l'heure des exemples, et ça c'est pour le praticien. Pour le théoricien, il s'agit de mettre le langage du droit en discours. C'est Darbenet qui a écrit un article célèbre à la fin des années 70 là-dessus, sur la mise en discours de ce langage, pour en faire un texte juridique. En théorie, cela paraît très simple. En théorie, bien sûr. Dans la pratique, vous savez qu'il en va tout autrement. Et lorsqu'il s'agit de mettre un texte en conformité avec les mœurs du moment, avec les normes du temps, ça aussi, dans une société donnée, ici et maintenant, au moment où je parle, et cela sur le plan linguistique, c'est difficile, mais aussi sur le double plan culturel et social. Il y a, nous sommes une société complexe, je le disais il y a un instant, tellement complexe que on ne sait plus comment rédiger les textes, arriver à un certain niveau de difficulté, et d'hétérogénéité, je n'arriverai jamais à le sortir, de la société. Aussi, pour y arriver, le jury linguiste va se fixer comme tâche d'amener l'auteur au lecteur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le grand philosophe Paul Ricoeur qui l'a dit, il faut amener l'auteur au lecteur et le lecteur à l'auteur. Et Paul Ricoeur décédé récemment, comme vous savez, malheureusement. Alors, voilà un petit exergue que je voulais vous présenter avant d'aborder un plan très rapide, comme vous allez voir, un plan très classique, étant de formation classique, je m'en tiens souvent à cette présentation-là, qui est celle de la rhétorique, en fait, nature, quelle est la nature de la jurilinguistique, quelle est sa fonction ou quelles sont ses fonctions, et je m'arrêterai un petit peu plus longuement sur les fonctions, et quelles en sont les limites. Et les limites, vous contribuerez certainement à les établir avec moi lorsque j'aurai terminé de parler. Pour le moment, en tout cas, on peut dire que la jurilinguistique remonte aux origines de la civilisation. Depuis que l'on parle, que l'on écrit, depuis les premiers efforts de l'humanité pour formuler des règles de droit, qui ont porté sur ce que l'on appelait des codes, ce que l'on a fini par appeler des codes, que l'on qualifie ainsi, la jurilinguistique, c'est-à-dire l'application d'un traitement linguistique au texte juridique sous toutes leurs formes, remonte à cette préhistoire du droit et de ses écrits. Elle remonte au premier tâtonnement des rédacteurs de codes, des droits cunéiformes, dans le code d'Hammurabi, bien entendu, bien connu de tout le monde, même si cela remonte à 1694 avant Jésus-Christ, donc quelque chose comme 4500, 5000 ans depuis les origines de l'écriture, bien sûr, et pour nous, en tout cas pour le monde judéo-chrétien, cela fait quand même quelques décennies. Les premiers jurilinguistes étaient des praticiens. La théorie... Je ne vais pas me lancer dans ce débat. La théorie est quelque chose de très récent du point de vue linguistique comme juridique, surtout linguistique. C'est une pratique professionnelle et un savoir-faire humain, bien sûr. Elle a néanmoins donné rapidement naissance à une œuvre, je pense à Justinien particulièrement, à des considérations et des réflexions qui ont préfiguré les théorisations qui allaient venir, inspirées des pères fondateurs. Alors les Platon, Aristote, Socrate, Cicéron bien sûr pour moi, qui a beaucoup compté dans ma formation. Aussi la justice et les lois qui en découlent, et les règles, étaient loin de laisser ces personnes-là indifférentes. Si vous relisez encore les premiers philosophes, vous verrez que la loi, comme on disait à ce moment-là, il n'y a pas si longtemps encore, occupe une très grande place. Sa diffusion la manière de la diffuser. Donc, la manière de rédiger les lois et les autres textes porteurs de règles ne cesse de préoccuper le monde des juristes, autrefois comme aujourd'hui encore. Si nul n'est censé ignorer la loi, hein, je vous fais grâce de l'expression latine, l'avantage du latin c'est qu'on peut le dire dans tous les sens, et que cela est toujours compris par le lecteur, contrairement à la langue française, ou à l'allemand, ou à l'espagnol, ou à d'autres, comment la faire connaître de la meilleure façon à ceux-là même, la loi, à qui elle est destinée? C'est peut-être l'enjeu et le dilemme de la jurilinguistique. Chaque peuple, selon sa culture, ses usages, ses coutumes, a forgé sa propre tradition de rédaction des textes. Je vous renvoie à la logique de l'écriture et à l'organisation de la société, que j'ai lu en anglais, c'est Jack Goody qui a commis ses ouvrages dans les années 60 et 70, et qui met l'accent justement sur la façon particulière de chaque peuple de rédiger ses textes. Hein. Pas seulement littéraire, bien entendu, mais aussi technique, scientifique, juridique, cela va de soi. Cela a été fait parfois avec bonheur, hein, parfois lorsque les textes sont clairs, concis, précis, mais le plus souvent, lorsque sont conjugués dans le même texte lourdeur, maladresse, verbiage, c'est au détriment du citoyen que le droit s'exprime. Il faut le reconnaître, malheureusement. Donc chaque langue, chaque culture apporte un témoignage très vif, hein, et ironique. On le retrouve sous la plume de ces grands écrivains, les Chaucer, Rabelais, Shakespeare, Molière, Swift, Voltaire, pour ne parler que des langues de Flaubert et Faulkner. Mais on le retrouve aussi en espagnol, relisez Don Quichotte, et vous verrez Cervantes, ce qu'il pense de la justice, par exemple, du monde de la justice. Alors, tout ça pour dire que, depuis les origines et jusqu'à nos jours, on critique ce langage lorsque ce langage est abscon, est illisible, que les textes sont mal rédigés ou trop longs. Et ça, c'est un autre problème que nous connaissons bien, nous, à cause de la tradition de common law, dans notre système juridique, dans nos systèmes juridiques. Donc ce langage est au cœur des préoccupations des juristes. Et les juristes nous rappellent régulièrement que le langage est affaire de droit ou que le droit est affaire de mots. Hein, le droit est affaire de mots, on le retrouve aussi bien dans le monde anglophone que dans l'espace francophone. Aujourd'hui comme hier, hein, chez tous les grands écrivains et les grands juristes. On pourra le vérifier en consultant des ouvrages récents, plus fouillés, produit par la doctrine comme le dictionnaire de droit privé du Québec, hein, et en France le vocabulaire juridique, et aussi le dictionnaire de la culture juridique, auquel je fais souvent référence. On remarquera dans ce dernier ouvrage notamment la place qu'occupe l'entrée linguistique juridique, hein, qui est d'ailleurs rédigée par Cornu, le doyen Cornu, terme qui consacre, sous un titre désormais classique, l'apport indiscutable à la science juridique d'une discipline, la linguistique, qui, depuis un quart de siècle, ou il y a un quart de siècle encore, laissait sceptiques certains des linguistes les plus éminents de l'époque. Sceptiques devant l'intérêt pratique que la linguistique pouvait témoigner envers le droit et envers les juristes. Quelles que soient les réticences, d'ailleurs, des juristes devant ce droit d'ingérence des linguistes dans leur domaine, hein, dans leur discipline. Malheureusement pour eux, ils ont dû l'éprouver très rapidement avec les progrès de la linguistique, particulièrement lorsqu'ils se sont lancés dans des entreprises nouvelles, comme la création de banques de terminologie, il faut bien faire appel à des spécialistes, la lexicographie juridique, unilingue, bilingue, multilingue, la réforme du vocabulaire, pas seulement au Québec ou au Canada, mais dans d'autres pays, regardez aux Pays-Bas, regardez en Allemagne, regardez en Grèce, regardez au Brésil, regardez un peu partout dans le monde, la révision des textes, des formulaires, la corrédaction législative, la révision des lois et des autres textes juridiques. Bref, tout cela fait appel à d'autres compétences que du droit pur. Je pense au contrat, par exemple, pour ne rien dire de l'interprétation des lois. Alors, les progrès dans ces pratiques sont souvent dus aux avancées des sciences linguistiques, qu'on le veuille ou non, parce qu'on sait que chaque science bénéficie des progrès qui sont accomplis dans les champs avoisinants, quels qu'ils soient. Et notre sociologue le sait très bien, pour avoir appliqué ces idées-là à bien des domaines, qui sont souvent complémentaires. L'apport d'autres sciences est nécessaire, car la solution d'un problème ne peut pas toujours être trouvée au sein d'un même champ du savoir, à l'intérieur des seules frontières d'une discipline. Et le droit ne fait pas exception à la règle. Malgré ce que l'on peut croire, la linguistique va lui servir d'appoint lorsqu'il s'agira de se lancer dans ce que Robert Badinter appelle cet exercice impitoyable pour le juriste qu'est l'écriture du droit. C'est une citation de Robert Badinter, l'ancien garde des Sceaux de François Mitterrand. Car si pour être l'être humain, écrire n'est pas un acte naturel, hein, selon James Raymond, le jurilinguiste américain, a fortiori, rédiger des textes juridiques ne va pas de soi. Et là intervient la jurilinguistique, qui est à la croisée de ces deux disciplines, mères, en quelque sorte, que sont pour le jurilinguiste le droit et la linguistique. C'est parce que les mots du droit constituent, dans le sens spécialisé que vous leur donnez, vous les juristes, la langue ou la terminologie juridique, qui est elle-même un sous-ensemble de la langue générale, mais qui est apparentée à un langage technique. Si vous n'en êtes pas persuadé, certains en doutent, allez voir dans la préface du Petit Robert les propos d'Alain Rey, et même ce que dit Cornu dans la linguistique juridique, dans les premières pages, il voit la langue du droit comme une langue technique. Ce n'est pas la dévaloriser que de dire cela. La technique, c'est tout l'apport de la société humaine à un domaine, n'est-ce pas ? Donc ce n'est pas quelque chose de dévalorisant. Alors si on la met en discours, avec le concours des mots de la langue courante, cette langue produit ce que j'appelle, mais ce n'est pas moi qui ai inventé ce concept-là, le langage du droit. Ce langage varie d'une langue et d'une culture juridique à l'autre, parfois par l'entremise d'un système différent d'une autre. Hein ? Pourquoi ? Parce que, vous savez ça mieux que moi, vous les juristes, locus regit actum. Hein ? Dès que l'on sort des frontières du droit, ben, on change de régime juridique. On change de langue aussi, bien entendu. Et c'est là que la jurilinguistique présente son utilité, voire sa nécessité, par les fonctions que le jurilinguiste peut être amené à remplir selon la situation langagière et juridique aussi, dans laquelle il va exercer son activité. En commençant par les fonctions, je me réfère encore une fois aux trois fonctions cardinales, faire, transmettre, chercher, que l'anthropologie a dégagé de longue date, et vous les trouvez chez Dumézil, bien évidemment, le grand ancien, dans le domaine de l'ethnologie, de l'anthropologie, et que la traductologie a reprise à son compte, ces trois fonctions. Mais cela ne peut suffire à soi seul pour décrire une réalité aussi complexe. Il est nécessaire d'examiner de près le contexte linguistique et juridique dans lequel le jurilinguiste est appelé à œuvrer. Et ce cadre fondamental, qui a été défini par les juristes, je l'ai repris et je l'ai appliqué au traducteur juridique. Alors, je vais vous faire voir ce cadre que je vais commenter très brièvement, que vous connaissez sans doute, puisque on le doit à Jacques van der Linden, le grand comparatiste. Hein. Et si vous voyez, dans le premier cas, les pays bilingues et unisystémiques, c'est lui qui l'a défini de cette manière-là, donc je le reprends en traduction juridique, mais ça vaut pour la jurilinguistique aussi, à mon avis, dans lesquels on peut mettre des pays comme le Brésil, la France, le Mexique, les Pays-Bas, hein, qui sont unilingues, on peut discuter cela, et unisystémiques. Dans la deuxième catégorie, et la difficulté croît avec l'usage, je dirais, chez le nombre de langues, les pays de bilinguisme et de multilinguisme officiel, où l'on retrouve la Belgique, bien sûr, le Cameroun, entre autres, le Canada, la Finlande, la Suisse, ce n'est pas exhaustif. Hein. Là, la difficulté s'accroît, bien évidemment, parce qu'il y a deux langues et parfois un multilinguisme officiel. On descend ou on monte d'un cran dans la complexité et on trouve les pays de bi ou de multilinguisme plus un bijuridisme. Et là, le groupe est déjà plus restreint. Hein. On a la Belgique, le Canada, l'Inde et beaucoup d'autres. Hein. On peut mettre le Sri Lanka, voire le Timor oriental, etc. Hein. Donc la complexité croît. Et les pays à la fois bi ou multilingue et bi ou multisystémique, là, le cadre est encore plus restreint. Et bien sûr, le Canada en fait partie, l'Inde avec ses 21 langues officielles plus l'anglais, et le Sri Lanka et beaucoup d'autres. Je disais le Timor, bon, l'Afrique du Sud et plusieurs autres. Donc on va du
Dieu plus unifié, en quelque sorte, linguistiquement et peut-être juridiquement, je ne m'aventure pas trop sur ce chemin-là, au moins unifié sur le plan linguistique et sur le plan juridique, comme l'Inde, par exemple. Alors, vous voyez que le Canada figure partout et jusqu'au sommet de la complexité, ce qui explique beaucoup de difficultés, beaucoup de choses. Ce cadre fondamental nous contraint, d'une certaine manière, à tellement de problèmes et de difficultés. Dans cette quatrième catégorie, on figure donc dans 3 sur 4, ce qui est déjà pas mal, et par ordre de difficultés croissantes. Donc, cela justifie peut-être le paroxysme de Gérard Cornu, dont je parlais il y a quelques minutes. Alors, selon que vous, jurés linguistes en général, serez appelés à travailler dans un de ces cadres-là, vous allez vous ajuster, vous adapter. Je prépare un ouvrage qui tiendra compte de cela et qui fera voir, j'espère, une jury linguistique appropriée à chacun des cas, si l'on peut dire, vous voyez, depuis le pays unilingue, parce que la jury linguistique, ce n'est pas que le bilinguisme, ça s'applique évidemment à tous les pays, qu'ils soient unilingues, bilingues ou multilingues, peu importe. Donc, on sera confronté, en tant que jury linguiste, à une situation culturelle extrêmement complexe. La langue, d'abord, plus un système juridique, qui va du plus unifié, hein, la France est un exemple caricatural, ou presque, de cette unification, la République, cinquième du nom, au moins unifié, dans une culture qui se proclame unique, ou qui se voudrait unique, la française, par exemple, par rapport à une culture polymorphe et polyphone qui est revendiquée, comme en Inde, en Afrique du Sud, où je disais le Timor oriental, presque par manière de plaisanterie. De toute évidence, la difficulté croît à proportion du nombre de langues et de systèmes en cause, et cela ne simplifie pas la tâche de la jury linguistique, quelle que soit la fonction qu'elle assumera. On en reconnaît plusieurs fonctions à cette jury linguistique, que l'on peut regrouper, que j'ai regroupé en 3 ou 4 principales. On pourrait aussi découper cela en états. J'ai déjà travaillé il y a près de 30 ans sur des états successifs, plus ou moins synchroniques, selon les façons de voir. Par exemple, chez George Steiner, l'essayiste, qui est aussi un traductologue, qui est aussi beaucoup de choses, un philosophe, ou chez Jean-René Ladmiral, le philosophe traductologue, qui en parle à propos de la traduction, l'un et l'autre, on pourrait prévoir un état prescriptif ou normatif, dans lequel on va dire « faites ceci ou faites cela, mais ne faites pas ceci ou cela ». C'est souvent comme ça que l'on commence, vous le savez, et que l'on a fait au Québec, au Canada et dans beaucoup de pays. L'état descriptif ensuite, c'est la voie à suivre. Le descriptif, c'est le propre de la linguistique, elle décrit beaucoup les langues, c'est la voie la plus empruntée. Probablement. Le troisième état, c'est l'état inductif ou scientifique. C'est celui de la recherche et de la théorisation, qui est plus rare, évidemment beaucoup plus rare. Et l'état productif, le dernier, le quatrième, c'est l'exercice même de la jury linguistique, sa pratique, si vous voulez. Donc on peut appliquer cela, ce schéma, à bien des disciplines, bien entendu, au comptable, ou au dentiste. Fussent-ils les arracheurs de dents, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Pour ma part, j'en distingue 3, qui s'appliquent à toutes les situations actuelles que couvre la jury linguistique et qui tiennent à la pratique, à sa transmission et à l'évolution de cette discipline, ou comme je l'appelle, de quasi-discipline, parce qu'elle n'est pas encore peut-être totalement une discipline. Donc la première, c'est celle de l'activité que pratiquent les jurys linguistes et qui leur permet d'exercer leur savoir-faire. La deuxième, consiste à transmettre ce savoir-faire par l'exemple, par la formation, ce que nous faisons tous, ce que font les professeurs en général. Et la troisième est indispensable à la vie, je dirais, au développement et au renouvellement de toute discipline, quelle que soit sa vocation, qu'elle soit littéraire ou scientifique, et c'est celle de la recherche. Alors, toutefois, en conclusion à cet exergue, cette partie de mon exposé, la jury linguistique n'en est pas encore, à mon sens, au stade de son développement où ce schéma pourrait s'appliquer à la lettre. Pour le moment, je crois que pour le Canada en tout cas, les 3 fonctions que Donald Poirier, le professeur Poirier de Moncton, présente dans son article, je vous renvoie à la page 551, si jamais vous êtes intéressé par son article qui est très intéressant, Il décrit assez bien la situation canadienne en parlant d'une fonction normative, d'une fonction formative et d'une fonction créative. Donc, on se rejoint un petit peu, on diffère légèrement sur l'appellation, mais cela revient à cela, hein, les trois fonctions principales. Donc, la jurilinguistique est d'abord une pratique, je disais un savoir-faire, qui a évolué en pratique professionnelle. Ou est-ce le contraire? Où est-ce le contraire? Quel est l'œuf? Quelle est la poule? Qui le premier a fait l'œuf ou la poule? Je n'ai pas de réponse précise, malheureusement, à vous donner. Et cette fonction productive de la jurilinguistique est sans doute la plus évidente. Elle s'exerce depuis que l'on rédige, depuis que l'on compose, traduit, révise, bref, depuis que l'on produit des textes reconnus comme juridiques. Et reconnus comme juridiques, ça veut dire, nous dit Cornu, qui crée ou qui réalise du droit. C'est ça un texte juridique, hein, un texte qui porte une règle juridique. Donc, tout le reste serait du para-juridique. Ça aussi, c'est discutable. Hein. J'ai des collègues genevois, notamment, qui n'acceptent pas ces définitions de Cornu. Cette pratique est omniprésente dans toutes les grandes traditions et langues juridiques. J'en y trouve de nombreuses bibliographies. Il y en a une faite par Monckton, Gérard Snow, dans cet ouvrage, qui fait 19 pages, excusez du peu, uniquement sur le Canada et uniquement française, donc c'est énorme, d'ores et déjà. Donc vous voyez, un corpus est en train de se constituer un petit peu à l'insu de tout le monde. Et puis, pour avoir assisté à de nombreuses soutenances de thèses de traduction juridique, donc de jurilinguistique souvent en Europe, les bibliographies sont très copieuses. Donc il y a énormément de matière qui tourne autour de ce corpus-là. Donc on aurait tort de penser que les problèmes engendrés par des langues en contact, juridiques, non, en ce qui nous concerne, se limitent au seul Canada. Tous les pays, comme les animaux malades de la peste, sont frappés, pays unilingues compris. Mais le problème ne se pose pas seulement à propos des langues en contact, c'est le langage du droit lui-même qui est à la source des difficultés dénoncées par de nombreux auteurs dans le monde entier. Hein. Je ne parle pas du Québec seulement ou de la France. Allez aux États-Unis et vous verrez tout ce que l'on peut écrire sur le sujet, comme vous savez. Le rythme des activités en la matière, parallèlement aux besoins croissants de la société, en matière de communication par exemple, s'est accéléré au cours du dernier quart de siècle, tout le monde sait cela, et au Canada notamment, dans le domaine public particulièrement, auprès des différents gouvernements, des offices, des commissions, des conseils, autrement dit l'administration avec un grand A, si vous voulez, autant dans ce secteur que dans la sphère privée, et là on peut parler des associations de juristes, des barreaux, des universités, des entreprises, des études, des cabinets d'avocats, de juristes, de traducteurs, etc. Vous voyez, la liste n'est pas close, elle est très longue. Toutefois, ce sont encore ces derniers, les traducteurs, qui assistaient des terminologues en pratiquant parfois intensivement à la jurilinguistique et à des fins purement professionnelles, lui en ont donné ses lettres de créance. Comme le démontre, entre autres, notre histoire, l'histoire du Canada, où la traduction a joué un rôle peu commun, nous dit Jean-Paul Vinet. Je ne résiste pas à la tentation de vous le citer. Le rôle du traducteur canadien dépasse de très loin celui du traducteur européen ou américain. Au Canada, ils sont responsables de l'évolution de la langue. Ça va loin. C'est très fort. Alors l'intérêt, je disais, pour les juristes, pour ces questions-là, ne faiblit pas. Et la jurilinguistique aussi se développe, donc en conséquence, à l'échelle mondiale. Parallèlement aux difficultés que génère à l'ère planétaire et sous la pression des besoins de la société, la communication contemporaine et tous ses avatars. Parce que sous le mot communication, on peut mettre beaucoup de choses. Pendant un an à Genève, on a débattu au conseil des professeurs du contenu à mettre sous le mot communication. Et on n'est jamais arrivé à trouver la solution. Hein ? Vous voyez ? Le constat est édifiant pour moi, si l'on prend le cas de l'Union européenne comme exemple, exemple limite, hein, de ce que la confrontation des langues et du droit peut produire de difficultés de toutes sortes, et les chiffres sont impressionnants. Selon Jean-François Burgelin, l'ancien président de la Cour de cassation, au procureur général, je crois, je ne sais plus, pour lui, la Cour de cassation est saisie de 30 000 pourvois par an et rend 27 000 arrêts. Oui, ça en fait des textes à rédiger. Hein. Norbert Rouland, le juriste, l'anthropologue du droit, parle, lui, d'une année symbolique, en 1978, où on voit la prolifération de 1250 lois et de 1308 décrets. On a fait mieux depuis, hein. Les États-Unis ont battu tous les records, à eux seuls, ils génèrent chaque année quelques 300 000 pages de textes réglementaires. 300 000 pages. Le Congrès des États-Unis, en 2001, a traité 5500 projets de loi. J'ai vérifié dans le site du Congrès des États-Unis, où on peut aller voir, et vous verrez, on a sûrement fait mieux. L'acquis communautaire de l'Union européenne, l'acquis communautaire, ce sont tous ces textes adoptés, pris, etc., par l'Union européenne, depuis les origines, représentent quelque 85 000 pages. Et chacun des États membres, ou nouveaux membres, doit les traduire dans sa langue. Vous voyez le travail que cela représente. Dans les 11 langues officielles du moment, parce que là on va parler bientôt de 27 membres, hein, cela donne 258 221 documents du Conseil. 258 221 documents du Conseil. Alors à cet homme, on va mesurer à grand-peine, et non sans angoisse, hein, le volume vertigineux de la production du secteur privé. Là je parle de quelque chose de public, si l'on peut dire, hein. L'Union européenne, dans le secteur privé, il faudrait multiplier cela par 10, 15, 20 fois, 1000, que sais-je. Comment, dans de telles conditions, produire à la fois la quantité et la qualité? Et de surcroît dans des délais que l'on souhaite raisonnables, hein, et le mot raisonnable est employé dans son sens propre ici. Tel est le dilemme de la jury linguistique, que le jury linguiste s'efforce de résoudre au quotidien. Cette quête du Graal, ils la poursuivent le plus souvent avec bonheur, hein, quand même il y a des réussites. Pensons au dictionnaire dont on parlait tout à l'heure, et quelquefois avec la frustration de ne pas avoir atteint le but désiré, je dirais, le plus souvent d'ailleurs. Et cela nous dit Hemingway, et vous excusez du peu, Hemingway, pour la simple raison qu'écrire est quelque chose qu'on ne peut jamais faire aussi bien que cela pourrait être fait. Je traduis Hemingway. C'est la frustration que l'on éprouve lorsque l'on a terminé de rédiger un texte, quel qu'il soit, littéraire, juridique ou simplement scientifique. La présence matérielle de la jury linguistique et les effets de cette activité, qui est en plein développement, se donnent maintenant à voir, et ce terme apparaît en français comme en anglais, jury linguistics, on le voit de plus en plus, même si en anglais on pourrait parler d'un autre mot, employer un autre terme. On le retrouve dans les grandes banques mondiales de terminologie, Termium, par exemple, hein, dans diverses publications, notamment canadiennes. Hein, je pense à la bibliographie de Gérard Snow, en particulier, on le voit à chaque page, il y a 14 pages sur 19 qui sont consacrées à la loi. Donc vous voyez, le terme figure là abondamment. Et il figure en anglais dans Termium. Donc cette activité et les besoins qu'elle révèle n'ont cessé de faire réfléchir les pouvoirs publics sur les meilleures façons de communiquer par écrit avec le public, bien sûr, et les différents destinataires de l'État et des pouvoirs publics. Des portails et des sites sont à la disposition de tous, ou des intéressés, les professionnels, les sociétés, des particuliers, des profanes, des amateurs peuvent aller voir comment résoudre une difficulté grammaticale, terminologique, stylistique, linguistique, bref. Comment réviser, comment rédiger, comment réécrire, voir comment traduire tel ou tel document. Il y a de nombreux sites, je vous donnerai un si vous voulez tout à l'heure, et il n'est pas jusqu'à la dictionnairique, c'est-à-dire l'art de faire le dictionnaire, qui est une activité langagière extrêmement spécialisée, s'il en est, qui n'ait retenu l'intérêt d'un groupe de terminologues et de terminographes, ou même de lexicologues et de lexicographes, et même aussi de groupes de juristes, comme on le voit, si l'on consulte le moindre site. Je pense par exemple au site de l'université de Villetaneuse à Paris 13, où l'on trouve le quadri-réacteur, dictionnaire multilingue, juridique et autour, c'est son nom, qui est un dictionnaire quadrilingue, français, allemand, anglais, italien, dont le professeur Lerat, Pierre Lerat, a dirigé la production. Et vous en avez comme ça, je pourrais citer le dictionnaire de Marie Cornu, Isabelle de Lamberterie, dictionnaire comparé du droit d'auteur et du copyright, excellent ouvrage d'ailleurs, entre parenthèses, il y en a comme ça des listes innombrables. Alors, se pose la question de la transmission de ce savoir-faire, voire du savoir qui est constitué par la pratique de la jury linguistique. Et parce qu'elle s'effectue sur les lieux mêmes du travail, où l'on travaille, la transmission de ce savoir-faire, et surtout le fait des praticiens. Les praticiens du droit, de la linguistique, de la terminologie, de la traduction, etc. Mais les théoriciens n'y sont pas étrangers, hein, puisque, comme pour toute discipline, finalement, les travaux de recherche des théoriciens, les réflexions, les modèles théoriques, vont nécessairement influencer la pratique, hein, quelle qu'elle soit. En effet, la confection de dictionnaires, de lexiques et d'autres vocabulaires unilingues, bilingues et multilingues, est étroitement lié au progrès accompli en lexicologie. Donc les lexicographes en font leur profit. Cela dit, les centres, les instituts, les groupes de recherche en droit comparé, en linguistique, en traduction, en terminologie, etc., où l'on produit une certaine forme de jury linguistique, contribuent également, outre à transmettre un savoir, à inculquer un savoir-faire. Et beaucoup d'entre vous le savent, qui avaient fait des stages, des post-docs, hein, et dans des centres de recherche, des groupes de recherche, etc., de toutes sortes. C'est toutefois dans les universités, et c'est toujours en amont, hein, que se prépare cette transmission. C'est là qu'on enseigne le droit, quand même, la linguistique, la traduction, la terminologie, etc. Et tout cela va jeter les bases des éléments qui vont contribuer à façonner ce que l'on appelle la jury linguistique, à le développer d'une certaine manière, mais pour cela, il faudrait d'abord, ou il faudra, que ces disciplines, que ce soit par l'effet du hasard, par l'effet d'un intérêt particulier, hein, ou par simple nécessité, comme je disais un instant, viennent à se croiser pour que, après avoir franchi l'obstacle des préjugés qui sont propres à toute discipline, à tout champ du savoir, pour qu'elles parviennent à se compléter, et le cas échéant à faire cause commune. Et ce n'est pas diminuer l'honneur des jurys linguistes canadiens que d'avoir réuni dans des comités, puisque déjà en 1981, ayant, si j'ai bonne mémoire, le comité s'appelait comité de jurys linguistiques, hein, que Paul Crépeau avait créé pour faire le dictionnaire, vous voyez, déjà en 1981. Donc, cause commune, cela peut arriver, mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Rentrant dans un séjour en Europe, je peux vous dire que ce n'est pas comme ça partout. Aussi bien chez les linguistes que chez les juristes. Le carcan des disciplines, des frontières et des prés carrés est très difficile à faire sauter. Par ailleurs, le rôle que jouent les gouvernements et leurs administrations, les organisations internationales comme l'ONU ou régionales, j'ai toujours du mal à dire régionales quand je parle de l'Union européenne, dans la formation à la jury linguistique et dans sa transmission, est primordial ce rôle. Le Canada a fait une œuvre pionnière, on le sait bien, en matière législative particulièrement, hein, un domaine qui est sans conteste au cœur de l'activité jurilinguistique au Canada, mais on va aller voir en Suisse, c'est un peu la même chose. Et on connaît tous l'action de l'administration fédérale, notamment du ministère de la Justice, hein, de l'époque de Bertrand, Kovacs et autres, et celle des gouvernements du Québec, du Nouveau-Brunswick, de leurs administrations, etc. Les pouvoirs publics, à l'échelle fédérale et dans les provinces, ont encouragé et soutenu beaucoup d'initiatives et beaucoup de projets de formation et de perfectionnement présentés par des associations professionnelles, des groupes d'intérêt, qu'ils soient privés ou publics, et la protection du consommateur, par exemple, contre les abus de toutes sortes, y compris les abus linguistiques, hein, est un bon exemple. Et au Québec, notre loi sur la protection du consommateur, vous le savez, prévoit à l'article 25 qu'un contrat relatif aux biens et services doit être clairement et lisiblement rédigé. On en conclura ce que l'on voudra. Et si ce n'est pas de la jury linguistique de la part du législateur, qu'est-ce que c'est ? À signaler aussi l'action de groupes et d'associations qui œuvrent pour l'éducation du public, pour l'illustration de la langue, voire pour sa défense. Hein. L'action combinée de ces institutions, de ces organismes, de ces groupes, contribue à transmettre et à développer le savoir-faire jurilinguistique dans le monde. Un savoir en découle, qui puise ses racines dans les travaux, dans les réflexions des linguistes, dans leurs recherches, chez les juristes, les traducteurs, les terminologues et autres langagiers, comme on dit, tous ceux qui traitent du langage. Parce que à quoi servirait une pratique qui ne serait pas suivi d'une réflexion critique. Et à l'inverse, à quoi servirait une théorie qui tournerait à vide, sans prise sur le réel? Je vous le demande. Donc, il faut une réflexion théorique, il faut qu'elle soit suivie de quelques effets, qu'il y ait des conséquences. Et cette réflexion théorique, chez les jurilinguistes, n'est pas négligeable, même si elle n'est pas encore au niveau de discipline comme celle de la linguistique ou du droit, elle est à l'état embryonnaire comparativement à d'autres disciplines. Mais réfléchir sur ce que l'on fait, en tout cas, réfléchir sur une pratique pour mieux la comprendre, et peut-être en vue de l'améliorer, en vue de la perfectionner, pour moi, c'est le propre de l'activité humaine. C'est une des fonctions chez Dumézil et chez beaucoup d'autres. Ce sont les fonctions cardinales de l'espèce humaine, si vous voulez. Et cela ne débouche pas nécessairement sur une réflexion théorisante. Et là, je me risque au pari pascalien, d'une certaine manière. Cela va créer les conditions nécessaires et suffisantes pour l'inspirer. Je le crois. Créer les conditions favorables, disons, pour créer cette ambiance, insuffler cet esprit de recherche, cette envie de chercher que l'on ne trouve pas chez tout le monde. Et même si les difficultés inhérentes à une démarche susceptible de déboucher sur des réflexions d'ordre philosophique peuvent être de nature à décourager les meilleures volontés, et parfois les volontés pusillanimes, chez l'apprenti théoricien, la jurilinguistique fait partie des activités humaines qui offrent prise à une certaine forme de théorisation, donc de recherche. Alors, je parle évidemment de recherche appliquée, je ne me risque pas à parler de recherche fondamentale encore en jurilinguistique, mais qui est en l'état actuel des choses utopique, bien sûr, mais en ce qui concerne la recherche appliquée, il y a quelques réalisations. En outre, la nature interdisciplinaire de la jurilinguistique a retenu l'attention de chercheurs qui viennent d'autres disciplines et d'autres horizons, ce qui a favorisé la naissance d'une forme de discours métalinguistique, comme cherchent à le démontrer les auteurs, les collaborateurs à cet ouvrage, qui viennent d'un petit peu partout dans le monde, et qui fait une large place aux apports et aux démarches extérieures au droit. Alors, en ce début du XXIe siècle, parler de théorie en jurilinguistique serait exagéré, pour dire le moins. Et par rapport au droit, à la psychologie, aux savants juristes et aux savants psychologues, un Piaget par exemple, cela équivaudrait à comparer la machine à calculer de Pascal et un ordinateur. C'est incomparable. Mais il y a un lien. Il y a une filiation. Un monde de progrès scientifique les sépare, et technologique aussi. De même, on ne comparera pas les réflexions d'un légiste anonyme du XVIIIe siècle et les prémices d'une solide réflexion générale sur le langage du droit que l'on retrouve dans les ouvrages contemporains, The Language of the Law de Melnikoff aux États-Unis, Le langage du droit de Souriau et Laura en France, et d'autres ouvrages comme celui de linguistique juridique chez Cornu en France. La présence d'un linguiste comme Laura, par exemple, complète pour moi harmonieusement le rôle du juriste qu'est Souriau. Vous voyez ? Et le progrès accompli tient au supplément de savoir linguistique qu'il a insufflé dans le travail auprès du juriste, qu'est Jean-Louis Souriau. Néanmoins, l'activité de la jurilinguistique n'a pas pâti de cette absence de fondement théorique, en tout cas au cours des 30 dernières années écoulées, et elle s'est nourrie essentiellement de sa propre pratique. Et depuis, les ouvrages, les travaux, les recherches qui sont consacrés à ce sujet-là, dans les différentes branches et les disciplines qui composent la jurilinguistique, se sont succédés à un rythme qui s'accélère. Tout le monde sait cela. Et cela constitue un corps de doctrine d'ores et déjà bien établi, qui est relativement limité, je disais, par rapport à d'autres disciplines, mais déjà bien établi. Toutefois, comme la multiplication des points de vue et la diversité des approches n'entraîne pas nécessairement un approfondissement de la réflexion, aucune discipline ne semble s'être imposée par devers l'autre, ni la linguistique au droit, ni le droit à la linguistique. Ils évoluent ensemble, en quelque sorte. Ils ont absolument besoin l'un de l'autre pour évoluer. Dès que le droit touche au texte, et dès que la linguistique touche à la règle, d'une certaine manière. Donc la linguistique, avec ses multiples courants, demeure pour moi encore la voie d'accès principale pour les chercheurs qui travaillent sur la langue et sur le texte juridique. On le constate dans les trois exemples que j'ai donnés, que je reprends des exemples des ouvrages d'Ethel Groschier et David Reed, que tout le monde connaît, sur la lexicographie juridique, ouvrage québécois, chez Yvon Blé. On le trouve chez Susan Sarcevich, la traductologue et jurilinguiste, dans New Approach to Legal Translation, qui est paru en 1997 chez Clouer, et évidemment chez Gérard Cornu, dans sa linguistique juridique, dans sa deuxième édition, parce qu'il y a une deuxième édition, comme vous savez. Alors, rien n'empêche d'envisager d'ailleurs la question d'un point de vue sociologique, d'un point de vue historique, je disais en exergue, d'un point de vue philosophique, voire psychologique également, pour ne prendre que ces exemples. En somme, le jurilinguiste praticien et son homologue théoricien ne peuvent se passer l'un de l'autre. Et ils sont parfois réunis dans la même personne, tel pour nous au Canada le juge Pigeon, de bonne mémoire, le doyen Cornu en France, Brian Garner aux États-Unis, par exemple, qui sont de grands praticiens, qui ont fait une œuvre originale, inspirée à partir de leur pratique, de leur expérience et de leur réflexion personnelle, avec les difficultés que pose le texte juridique proprement dit. Que ce soit la loi pour l'un, que ce soit la justice, donc le jugement pour l'autre, ou parfois un acte, le contrat, ou encore un dictionnaire, un ouvrage de doctrine par excellence. Ce faisant, ils ont contribué à fonder cette discipline que pourrait devenir la jurilinguistique inductive, nous dit l'admiral, c'est-à-dire théorique. Pour réaliser le texte juridique, les nombreuses méthodes, théories, formules, les différentes manières de voir ou d'aborder la rédaction d'un texte destiné à la communication ne doivent pas être écartées a priori. Chacune a sa justification, à mon avis, à une étape quelconque de la production du texte, depuis sa conception jusqu'à son application. Regardez la co-rédaction bilingue, donc des lois, et multilingue éventuellement, des lois où on conçoit ensemble, et après, bon, on va interpréter. Il faut bien des interprètes bilingues et parfois multilingues. Donc vous voyez, du départ jusque vraiment à la conclusion du texte. Dans cette entreprise, désormais, le rôle des jurilinguistes n'est plus superflu. Comme la terminologie pour la traduction, la jurilinguistique peut accompagner le droit dans ces domaines, lui servir de science auxiliaire, en quelque sorte, comme nous dit Mounin, particulièrement dans les situations où le droit est confronté à des textes, les juristes sont confrontés à des textes, disons, devant l'exprimer dans une autre langue, et a fortiori dans plusieurs autres. C'est tout le dilemme aussi de l'Union européenne, comme vous savez, qui est énorme, c'est Babel reconstitué. Et dans cette entreprise, l'exemple du Canada pourrait illustrer le conseil de Montesquieu dans l'esprit des lois, qui suggère que les lois éclairent l'histoire d'un pays, et réciproquement, l'histoire d'un pays peut illustrer les lois. Et je travaille beaucoup sur ce concept en ce moment, depuis quelques années d'ailleurs, et je vais, pour susciter peut-être quelques questions, vous projeter un petit document qui va susciter quelques questions, j'espère. J'ai vu si j'arrive à les retrouver. Voilà. Pour clore ce débat, et pour le nourrir, si besoin était, je vous pose quelques questions qui s'adressent aux juristes, mais aussi aux linguistes et aux jurilinguistes, s'il y en a parmi vous. Est-ce que la jurilinguistique est un coin inséré dans le défaut de la cuirasse du droit? Certains le pensaient, Batifol, d'autres philosophes du droit le pensent, l'ont pensé. Est-ce qu'elle fera, sinon céder le droit, du moins évoluer, ce qu'il évoluera au contact de la linguistique? Ou n'est-elle, la jurilinguistique, à l'image du Canada, qu'une middle power? Et ça, c'est Nicolas Cassirer, cher doyen de McGill, qui le dit, middle power, c'est-à-dire pour le jurilinguistique un médiateur, un facilitateur entre groupes linguistiques, entre traditions juridiques, voire entre disciplines, droit, opposé à la linguistique. Ou encore, le jurilinguiste serait-il ou serait-elle un language broker, un courtier, comme le prépare
Albert Breton, Albert Breton, hein, dans cet ouvrage que je donne en référence, Albert, vous avez la référence en bas, soit à l'instar du traducteur juridique, un courtier entre là où les langues et le où les droits. Hein, c'est le titre de ma communication. Et pour finir, je vous repose la question habituelle que Van der Linden avait lancée, et j'attends votre réponse. Au cours du temps, qui détermine qui du droit ou de la langue? Et ça, c'est une bonne conclusion, je pense, à ce que je viens de vous dire, parce que moi, je vous donnerai la réponse tout à l'heure, mais je pense que vous la savez déjà. Je n'ai pas de réponse définitive, bien entendu, concernant la linguistique ou le droit. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, ni trop jurilinguistique. Et je vous rends la parole.
Chers collègues, je vous remercie beaucoup de votre présentation. Ça nous a fait grand plaisir et je crois que toutes ces pensées venant d'une autre discipline ne peuvent qu'avoir suscité quelques interrogations ou quelques réflexions. Donc, c'est l'occasion de demander s'il y a des gens parmi nous comme ça qui aimeraient profiter de votre présence pour qu'on ait un peu plus de discussions encore.
Ou un redoutable bretteur.
Oh, mais ça, je savais bien que notre collègue Yann Mackay aurait quelque chose à dire. Peut-être que vous êtes lancé.
Peut-être deux petites réflexions. Il y en aura beaucoup, mais deux petites. Pour les juristes, c'est vraiment le premier contact avec, j'imagine, la juridique linguistique, c'est par le biais du livre de Pierre-André Côté. Est-ce que ce livre se situe proprement à ta conception dans la jurilinguistique? Première question. Deuxième question est un peu plus large. Au début, tu fais allusion à des traditions de style variables selon les pays. Et là, évidemment, mon réflexe d'économiste revient et se dire, est-ce que ça converge ou est-ce que ça ne converge pas? Et si ça ne converge pas, pourquoi? Si ça converge, où est-ce qu'on l'observe?
Alors, ce sont deux questions bien, bien passionnantes. La première, le livre de Pierre Côté sur l'interprétation des lois, pour moi, c'est très contestable, hein, mais étant donné que je suis parti de la traduction et que j'en suis arrivé à dégager certains principes de jurilinguistique, la jurilinguistique, je le réaffirme, c'est une discipline, si l'on peut dire, qui touche au texte juridique, alors que le juriste se propose, lui, de toucher à la règle et au droit. Le jurilinguiste ne se propose pas de toucher au droit. Le traducteur juridique n'a pas le droit de trafiquer le texte qu'on lui donne à traduire. Il traduit, il ne se pose pas de questions sur le droit. C'est-à-dire qu'il ne va pas transformer le droit. He's not a lawmaker. Hein? Il ne fait pas le droit, il fait le texte. Il doit rendre le texte de la manière la plus lisible possible. Donc pour moi, le jurilinguiste, c'est quelqu'un qui touche au texte, qui touche au langage, à la linguistique dans le sens langagier, et non pas à la linguistique au sens de la discipline, et non pas au texte juridique, c'est-à-dire à son contenu, c'est-à-dire au droit. Voilà. Et ça, je suis assez catégorique là-dessus. Je sais que tout le monde ne partage pas ce point de vue-là, mais il ne s'agit pas pour le jurilinguiste de se substituer au juriste, vous voyez, sauf si on lui demande. Et s'il est à la fois juriste et linguiste, et si à un moment donné, on lui demande une opinion, ce qui m'est arrivé à bien des reprises devant des tribunaux, de spécialistes, là je me prononce. Mais quand j'ai affaire au texte juridique, mon propos n'est pas de dire ce droit est mauvais, il faut le changer, il faut y toucher. Ce n'est pas mon propos, ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas ma fonction. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un législateur, il y a un juge, et il y a des parties avec des juristes, des avocats ou notaires, que sais-je, qui ont fait des actes, et ça c'est la loi des parties. Le jurilinguiste va mettre le texte en forme, mais il ne va pas toucher à la règle.
Mais ça présuppose que le texte peut être clair. Or, je dirais, les textes ne sont jamais clairs. Tout acte de lecture, sans même parler de traduction, est nécessairement une interprétation.
forcément, toi qui as écrit un article sur les notions floues en droit, tu sais de quoi tu parles, hein, bien évidemment. Encore faut-il que le texte soit clair. Donc le jury linguiste, c'est un petit peu le conseiller, je n'oserais pas dire celui qui était l'écrivain public dans les rues d'autrefois et que l'on trouve encore dans certains pays dans le monde. Quand on voyage, aller en Inde, en Amérique latine, etc., il y a encore des écrivains publics. Il faut un petit peu ce rôle d'expert, si tu veux, auprès du juriste. Mais lorsqu'il est lui-même juriste et linguiste, la chose ne tient plus, tu vois. Mais la question est que dans notre société, peut-être moins en Europe, mais dans notre société, il y a des terminologues, des traducteurs, des linguistes qui ne font que cela. Et quand ils touchent un texte juridique, ils se transforment en jurilinguistes. Tu vois, mais ils ne sont pas juristes. Ils n'ont pas de connaissances précises du droit particulièrement. Par contre, les co-rédacteurs des lois à Ottawa et les traducteurs à la Cour suprême, hein, par exemple le directeur des questions de jury linguistique à la Cour suprême, ancien étudiant à moi, entre parenthèses, est avocat et a fait la traduction d'abord. Il est passé par la traduction puis il a fait le droit. Donc il est doublement qualifié pour être à ce poste-là. Alors là, voilà ma conception. Si l'on a un équilibre harmonieux entre le linguiste et le juriste dans la même tête, la question ne se pose pas. Si par contre on a affaire à des linguistes purs, et c'est souvent le cas, c'est le cas le plus fréquent que l'on rencontre sur le marché, dans le monde entier, à ce moment-là, le jurilinguiste ne doit pas se sentir tenu, n'est pas tenu, disons, de toucher au texte juridique, forcément, au message, au contenu juridique. C'est ma position. Donc, voilà pour la première réponse qui amènerait des développements énormes. Pour ce qui est de la deuxième question, ça nous entraînera très loin. Ça nous entraînerait très loin. Faut-il que les textes soient bien rédigés? C'est que, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est James Raymond quand il dit « Writing is an unnatural act ». Écrire n'est pas un acte naturel. Ce n'est pas spontanément que l'on a appris à écrire. On apprend à écrire, ça ne vient pas comme ça, ça ne tombe pas des nues. Il y a, dans la tradition, et là tu parlais de culture et de tradition de rédaction aussi, c'est très intéressant parce que dans la tradition anglaise, britannique, le common law, à l'époque des Inns of Court, on n'apprenait pas à écrire. On apprenait le droit sur le tas auprès d'un juge, auprès des tribunaux de l'époque, dans les hôtels de justice, comme on disait si bien en vieux français, l'expression est très belle, on apprenait sur le tas. Dans la tradition du droit intellectuel et savant, européen et romain, etc., on rédige. Donc le problème ne se pose pas dans les mêmes termes. Et d'où la tradition stylistique et la rédaction du Code Napoléon, qui est l'aboutissement d'une longue tradition qui remonte à Cicéron, hein, et même plus haut, bien sûr, alors que dans la tradition de Common Law, qui est moins influencée par le droit romain, même s'il y a une influence romane très forte, hein, comme vous savez, en Common Law aussi, on est davantage dans le spontané, dans le coutumier, dans la jurisprudentielle, où l'on n'a pas appris comme tel la rédaction. Il y a de très grands juristes, de très grands rédacteurs, tout le monde connaît les travaux d'un Blackstone et de beaucoup d'autres, et tous les grands juges qui ont rédigé, Lord Denning et beaucoup d'autres, qui sont de grands rédacteurs, bien sûr. Mais ce n'est pas, comment dire, quelque chose de spontané, une aptitude que l'on acquiert parce qu'on est juriste. Vous voyez. Donc, je pense qu'il y a deux traditions différentes, l'une de rédaction que l'on apprend à l'école, la preuve c'est que dans les facultés de droit en France, en Belgique, en Suisse, on fait des rédactions juridiques comme des enfants à l'école, hein, des dissertations juridiques. Il faut rédiger selon les canons de la rédaction du moment, hein, et les canons traditionnels bien évidemment. Donc, les textes, le problème nous vient de la tradition de common law, parce que ce n'est pas la France, pour une fois, qui a lancé le concept de plain language law. C'est parti de l'Angleterre. Et ça a essaimé dans le monde entier. Et ça nous est revenu au Québec par ricochet. Une fois que c'est arrivé au Canada, anglais, et que le phénomène a paru intéressant et qu'on l'a appliqué au Québec francophone. Vous voyez. Mais il ne nous est pas dû. Le problème, nous vient de la confrontation des textes, de la cohabitation des langues et des systèmes, depuis les origines, du Québec et du Canada, donc, bien sûr. Et les premières traductions de nos premiers textes, qui étaient tellement copiés et collés, on dirait maintenant, qu'elles étaient illisibles pour des francophones qui se respectent. Depuis, on a fait extrêmement mieux, comme vous savez. Voilà. Alors, le problème se passe sur un plan bien différent. D'où une tradition de rédaction qui, pour moi, est très forte. Et elle est caricaturale et presque paroxysmique, dirait Cornu, dans ces deux systèmes-là. La commande d'un côté et le droit civiliste, j'insiste bien, droit civiliste, parce que quand je dis droit civil devant mes étudiants, ils croient qu'il s'agit du code. Non, c'est bien plus que ça, c'est une tradition. Tradition bien plus ancienne de rédaction à la manière de. D'où droit civiliste, inspiration civiliste, et non droit civil comme tel. Alors, est-ce que les systèmes se rapprochent? Oui, je crois qu'au lieu de continuer à s'écarter, ce qui était le cas jusqu'à la fin du 19e siècle, hein, jusqu'au moment où l'on a arrêté de regarder un système de common law, les précédents, comme étant une norme obligatoire, on s'est un peu dégagé de cette contrainte-là, et où en France, on s'est aperçu que produire trop de lois nuisait, et ce n'est pas n'importe qui l'a dit, hein, dans Flexible droit, Carbonnier critique fortement l'abondance des lois en France, hein, qui ont fait une loi à tout propos pour un oui, pour un non, et ça en fait une de plus, et ça fait encore des textes adoptés à une très grande vitesse, mal rédigés, etc. Donc, le mal qui frappait apparemment les textes de loi de common law, de tradition britannique, est arrivé en France avec, comment dire, un excès extraordinaire qui s'est reporté dans l'Union européenne. Alors, le paradoxe, c'est que l'Union européenne est un forum extraordinaire où les deux se confrontent et doivent faire des compromis. Du moins, c'est ce que je crois comprendre. Petit à petit, on fait des compromis. Les Français s'inspirent, du moins, la tradition française s'inspire, les Belges aussi, de la tradition anglaise. Et les Anglais sont obligés de faire des compromis parce que l'anglais n'est plus la langue majoritaire, hein, face à l'Union européenne. N'est-ce pas ? L'allemand est une langue importante, le français aussi, il n'y a plus l'anglais seulement face à lui-même. Pas. Donc, je crois que oui. Et j'ai une anecdote pour terminer cela, cette question, lors de cette mission, de ces missions que j'ai faites pour la francophonie, je me suis trouvé devant le président de la Cour suprême du Venezuela une fois, et il y a presque 30 ans de cela. Il avait fait son doctorat à Paris, il parlait mieux français que moi. Et je lui faisais voir toutes les difficultés de notre système, notre pauvre Canada, avec ses traductions difficiles, sa common law, son droit civiliste, etc. Et il me dit, mais vous voyez tant de différence que cela entre les deux systèmes? Je lui fais, oui, j'en vois une énorme. Ah, il était tout étonné. Est-ce qu'ils n'ont pas le même objectif en vue, l'un et l'autre? Je réfléchis avec ma petite intelligence, devant ce grand monsieur du droit et de la Cour suprême du Venezuela, et je finis par admettre que oui, finalement, les deux disciplines vont dans le même sens. Hein. Le but est le même, les objectifs sont comparables, en quelque sorte. Voilà, je ne vais pas développer ce sujet-là, mais je pense que oui, lentement mais sûrement.
Oui, peut-être Michel Morel, oui.
Oui, c'est simplement pour revenir sur ce que vous avez dit en introduction, vous avez cité il y a quelques auteurs français qui décrivent notre système avec un mélange de fascination et d'horreur profonde. Et je me demandais si des anglophones s'étaient intéressés à notre système canadien ou bilinguisme. Et tout, et ça m'a rappelé, même si ce n'est pas directement relié à ce que je veux dire, cette pratique qui existe au Canada anglais, toujours imprimer une seule version officielle des lois dans les documents qu'on remet aux juristes anglophones, et pendant longtemps, la Cour suprême interprétait les lois comme c'était des juges anglophones qui rédigeaient les motifs sans tenir compte de la version française. Ça a changé depuis peut-être 10 ans, soyons très charitables. Est-ce que dans le monde anglophone, nos particularismes ont suscité l'intérêt d'auteurs juristes anglais ou autres?
Oui. Oui, puisqu'il y a de nombreux anglophones qui citent les sources canadiennes, françaises, québécoises, hein, de toutes parts. Et on en trouve justement dans l'ouvrage en question. Si vous lisez l'article de Susan Sarcevich, qui est américaine, en fait, une américaine, même si elle travaille à l'université de Zagreb, et de Rijeka, écrit en anglais, et beaucoup d'anglophones, notamment britanniques, parce qu'ils voyagent beaucoup, l'Espagne, par la Catalogne, s'est beaucoup intéressé à nos travaux, vous le savez, hein, à cause de ce bilinguisme, du juridisme, etc. Et comme beaucoup d'anglais, d'allemands, italiens, hollandais aussi, etc., vont en Espagne, ça rayonne. Et depuis une bonne vingtaine d'années déjà, les travaux québécois et canadiens sont bien connus. Et surtout en matière de corrélation, alors là, on est largement connu et répandu. Vous voyez, ça ne veut pas dire que tout le monde s'en inspire, mais par exemple en Australie, ils font venir des spécialistes, des jurilinguistes canadiens, et pas seulement en Australie, mais en Inde, etc., pour voir comment on travaille et s'en inspirer aussi. Donc vous voyez, c'est l'anglophonie vraiment at large, si je puis dire, hein, qui s'intéresse. Ça ne veut pas dire que c'est un engouement, là, on lâche tout pour s'emparer de la jurilinguistique, mais on ne laisse pas le monde indifférent, le monde anglophone. Et les États-Unis, je peux vous dire, pour voir, depuis une quinzaine d'années, pour animer ce séminaire de rédaction des jugements des juges de la Cour supérieure du Canada, il y a trois quarts, disons deux tiers de juges anglophones et un tiers de juges francophones, selon les années, parfois un quart, parfois trois quarts, les anglophones qui viennent des États-Unis, beaucoup d'entre eux, des professeurs, s'intéressent à la jurilinguistique, disons à notre manière de faire. Mais vous savez, les États-Unis sont un continent en soi. Bon, c'est une composante parmi beaucoup d'autres. Et en Europe, oui, peut-être plus que aux États-Unis encore.
Je me posais la question, est-ce que la jurilinguistique est neutre? Est-ce qu'elle ne fait que fournir des instruments aux juristes? Ou bien au contraire, est-ce qu'elle est porteuse de valeurs, de principes fondateurs? Et je pensais à deux champs d'application. Le premier, nous avions fait venir ici pour l'éducation des étudiants de première année au premier jour de l'entrée à la faculté. Le linguiste chef du gouvernement du Québec, que je ne nommerai pas à cause du mal que je m'apprête à dire, il raconte pour y expliquer aux étudiants que jusqu'à quel point l'intention du législateur était un mythe, qu'il avait eu instruction à un moment donné de décrire un texte de loi dans lequel, c'est très simple, c'est l'image d'une catégorie de juges, le traitement d'une catégorie de juges aux fonctionnaires le mieux payé de la fonction publique provinciale, et ça variait en fonction, c'était les mêmes augmentations, ça peut dire dans une phrase. Il avait eu instruction de faire un texte illisible. Il expliquait aux étudiants comment est-ce qu'il a expliqué la règle en 20 lignes, et qui a fait un exercice d'illisibilité, mais d'une logique totale. C'est-à-dire que quelqu'un qui mettait une demi-heure pouvait réussir à décoder, à s'apercevoir qu'au fond, on avait voulu, c'était une entreprise de mystification, et qu'on avait voulu finalement être invisible. Alors je me demandais, est-ce que la communauté linguistique est neutre, ou bien est-ce qu'elle aurait qualifié de péché mortel un tel comportement? Et mon deuxième champ d'application, en 2001, j'étais invité au comité parlementaire sur l'harmonisation des lois au Canada, et il voulait avoir le point de vue d'universitaire sur la rédaction quadrilingue, c'est-à-dire à la fois bilingue et plurilingue, ce qui donnait quatre versions d'un même texte. Et en étudiant et en préparant un peu ma communication, j'aurais dû écouter, je ne suis pas sûr que vous voulez entendre ce que je veux dire, mais nous on insiste, je dis, tant pis pour vous, je vais aller vous l'expliquer. Ça conduisait à l'illisibilité. J'avais l'impression qu'il y avait une idéologie sous-jacente dans laquelle on exacerbait les différences au lieu de tendre vers la convergence ou l'uniformisation. J'avais l'impression que les jeunes fonctionnaires qu'on avait massivement recrutés à l'époque étaient là pour être payés au poids. Plus ils créaient des divergences, plus les chances d'avancement étaient bonnes. Et alors, je me demandais si la jury linguistique portait un jugement sévère, ou aurait un jugement de valeur à porter en disant, est-ce qu'il y avait un principe de communication efficace et puis d'harmonisation que devrait poursuivre la jury linguistique, ou bien est-ce qu'au contraire, elle se met un peu comme une mercenaire au service des troncs, pour accomplir des dessins politiques qui sont définis complètement en dehors d'elle. Alors, si on veut accentuer les différences, elle se met au service de ceux de l'idéologie qui voudrait réaliser une fin comme celle-là. Alors, je reviens à la question, neutre ou bien porteuse de valeur?
Il me semble que les deux questions peuvent appeler une réponse unique, si tu veux, dans ce sens que le jury linguiste doit être neutre. Pour avoir travaillé quand même pendant 5 ans environ côte à côte, au sein de ce comité de jury linguistique, je serais beaucoup plus humble en disant que le jury linguiste n'éclaire pas ipso facto, disons, le texte juridique. C'est laborieux, c'est lent, c'est difficile. On travaille ensemble, on essaie d'apporter des réponses et on dialogue beaucoup. Donc ce n'est pas simple. On essaie d'être neutre dans le sens que je disais tout à l'heure, où, je parle pour moi, je ne peux pas répondre pour tous les jurys linguistes, bien sûr, mais on connaît le même problème dans tous les secteurs de la pensée. Il y a toujours des extrémistes, il y a toujours des idéologues, il y a toujours des gens qui se mettent au service de toutes les causes. Des mercenaires, comme tu disais. Pour moi, le jury linguiste doit être au service de la langue. D'abord, il est au service de la langue.
La clarté de la langue.
Alors, voilà. Tu parles de fondement. Il y a, je les ai cités tout à l'heure, ces trois principes qui sont reconnus parmi les jurys linguistes, de clarté, de concision et de précision, qui s'appuient sur des critères linguistiques. Bien entendu, des critères linguistiques, donc de communication, de meilleurs textes à transmettre. Par exemple, quand on fait des phrases, comme on trouvait il n'y a pas si longtemps encore dans les lois britanniques, du Commonwealth, de plusieurs pages, quand on voit le code criminel à l'origine, ce qu'il était, pour le commun des mortels, pour le profane, lire des textes comme ça, c'est incompréhensible. Quand on sait que la mémoire immédiate du lecteur moyen, disons, tourne entre 15 et 25 mots par phrase. Alors, si on a des phrases de 85-88, parce que j'ai une phrase de 88, etc., et j'avais apporté des textes pour exemplifier ce que l'on a à dire, quand on se retrouve avec un texte comme celui-ci sous les yeux, où on a une page entière de texte sans point, il faut lire. Celui qui le lit, bon, il peut s'arrêter à un point virgule ou reprendre sa respiration à une virgule, c'est très difficile. Alors, il y a une meilleure manière, certainement, de rédiger ces lois, et c'est tout le travail qui a été fait à Ottawa depuis les années 70 sur la rédaction des lois, et à Québec également. La loi 101 est, pour la citer, mieux rédigée que les lois de 10 ans précédents. Donc on peut appliquer ces principes, disons, de meilleure rédaction, de meilleure lisibilité du texte, à toutes sortes de textes, y compris le texte juridique. Et tout dépend de ce que l'on veut dire et du destinataire. Quand on s'adresse aux parties, le juge qui rédige son jugement, il n'écrit pas pour tout le monde, il écrit pour les parties en principe. Certains, les mauvaises langues disent pour la cour d'appel, mais bon, il écrit son texte et il n'est pas fait pour être lu par tout le monde. Mais les étudiants vont le lire. Les professeurs le décortiquent. Et ils se retrouvent sur la place publique, des fois, en première page du devoir de la presse. Parce que le juge a employé telle ou telle expression. C'est arrivé bien des fois. Alors, il y va de la dignité du droit, de la fonction, de la justice,
des professeurs, de tout ce que l'on écrit, de ce que l'on rédige. On met des exemples dans la société. On disait tout à l'heure que les juges sont bien payés, tant mieux pour eux, mais à ce moment-là, il faut produire des textes qui soient à la hauteur, dont la population puisse être fière. Et ne pas avoir à rougir. C'est ça, sans doute, le but aussi. Il y a un vieux proverbe occitan qui dit « Être fier de sa langue, c'est être fier de soi ». Je pense que le Québec est tout à fait concerné dans cet adage-là. Alors, être neutre, oui, dans le travail, mais au service de la langue, c'est-à-dire l'illustrer le mieux possible. Et pourquoi retient-on les travaux des plus grands juristes de doctrine? On parlait d'un Cornu tout à l'heure, ou de Carbonnier, Savatier, que sais-je, et beaucoup d'autres, parce que ce sont les maîtres de la langue, ces gens-là. Comme nos grands juristes, hein, comme des Vigneault et beaucoup d'autres, hein, Jean-Louis Baudouin, pour ne citer que lui, et beaucoup d'autres encore, Pigeon, bien sûr, Betz, hein, bref, tous ces grands rédacteurs qui étaient aussi bien des juges que des professeurs de droit. Alors, il y a des exemples à suivre, et ces exemples sont donnés par eux. Alors, si l'on cède à la tentation, et forcément le monde du travail nous aspire vers le bas, il s'agit de résister, et d'avoir des principes et de s'y tenir, c'est tout. Évidemment, il y en a qui vont céder, ça, malheureusement. Mais le but est là, on a des principes. Par exemple, chez le traducteur, on traduit toujours vers sa langue maternelle, et non vers une langue étrangère, par principe. Mais il y a des exceptions. Et il y a des gens parfaitement bilingues, on en connaît beaucoup, on en a autour de nous, qui parlent même plusieurs langues, et qui peuvent agir dans ces conditions-là. Voilà. Alors, neutralité, oui, le plus possible, mais au service de la langue, quand même. Disons du texte. Voilà. Pour ne pas faire d'allusion linguistique.
Tu as aussi
les traducteurs savent que la langue évolue dans le temps. Et par exemple, en ce moment, on retraduit, par exemple, en anglais et en français, Max Weber, parce que les traductions d'il y a 50 ans sont de moins en moins bien comprises par nos étudiants, par exemple. Parce que le langage a changé. Je me demande souvent si le problème de la lisibilité du droit ne vient pas du fait qu'une grande partie du droit est écrit dans une langue qui n'est pas celle d'aujourd'hui, mais qui est une langue qui est figée un peu dans un passé à cause des canons de la rédaction qui sont stricts, qui exigent. Donc c'est une langue qui n'a peut-être pas assez évolué pour être comprise par tout le monde. Et ce n'est pas seulement parce qu'elle est technique, ce qui est vrai, elle est technique cette langue, mais en plus d'être technique, elle date peut-être. Et deuxièmement, non seulement elle date, mais c'est aussi une langue parlée par une certaine classe sociale. Et une classe sociale qui a son langage, et un langage qui n'est pas nécessairement toujours le même que celui d'autres classes dans une même société. Alors, est-ce que ce serait partie de l'explication de l'illisibilité d'un certain nombre de
En partie, oui, en ce sens que forcément le droit emploie un vocabulaire technique déjà, qui n'est pas compréhensible de la part de tout le monde, qu'on a du mal à comprendre. Quand on parle d'anatocisme, quand on parle d'amphithéote, dans ce genre de termes et beaucoup d'autres, même les termes parfois les plus simples, regardez le mot droit, les définitions qu'il y a, qu'il se cite dans les dictionnaires, les juristes sont divisés en courants doctrinaux, ils ne sont pas toujours d'accord sur le sens même à donner, enfin bon, ça c'est le terme le plus simple, mais il y a le vocabulaire qui est très ancien, parce qu'il remonte pour beaucoup en matière de droit des biens, par exemple. En droit romain, au droit de la famille, il y a beaucoup de termes qui nous viennent de l'époque romaine, des Romains. Oui, mais ce vocabulaire-là ne s'est fixé que très tard, dans notre inconscient, à l'époque de Napoléon, hein, dans le code civil, dans le code Napoléon. Il date un petit peu, mais le mot contrat comment dire, il y a trois lectures que l'on peut faire d'un mot. Je les fais toujours. Je dis, il y a le prophète, quand on lui dit le mot contrat, il imagine quelque chose, il voit une espèce d'accord entre deux personnes, il trouve que le terme est tout à fait compréhensible. Il y a ensuite le juriste et le praticien qui lui donnent un sens très précis. Et justement, lors d'un colloque récemment à McGill, il y avait des juristes de langue anglaise qui discutaient de ce sens-là. Le mot contrat ne va pas être perçu de la même manière par tous les gens autour de la table, selon leur origine. Et après cela, il y a les grands auteurs de doctrine qui ont rédigé des traités de 1000 pages et plus sur le contrat, qui maîtrisent vraiment l'ensemble des choses. Alors, à la base, il y a le citoyen qui lit et qui croit comprendre quelque chose. En plus, ce mot-là, ce terme, disons, dirait un terminologue, est enrobé de mots de la langue qui se veut courante. Alors, quand vous avez un terme complexe, qui est difficile à comprendre, création de société par fusion, par exemple, c'est assez complexe à comprendre, il faut dissocier chacun des termes, etc. Vous avez les textes entiers, des pages et des pages qui tournent autour de cela, les gens ont beaucoup de mal à comprendre à la fois le terme et le vocabulaire qui vient avec. Mais je ne crois pas que le droit ne se soit pas réformé au point d'être illisible, parce que quand on lit les lois les plus récentes, elles se lisent très bien et très facilement, de plus en plus. C'est peut-être dans les textes notariés, les actes notariés, là, j'aurai des exemples, mais on n'a pas le temps de projeter cela, mais j'en aurai extrêmement complexe. Quand vous avez, par exemple, celui-ci, c'est pas un texte notarié, c'est un texte financier. Hein. Entre l'anglais et le français, il a été traduit. Vous voyez ce que ça peut donner en traduction comme texte, à quoi on peut arriver à réduire ce texte et à le rendre plus lisible. Si je retrouve celui que je voulais vous faire voir, mais je ne suis pas sûr de l'avoir amené. Ou vous lisez un texte notarié, de notaire, il est complètement illisible, parce qu'il est rédigé en termes techniques. Il y a quelques mots de la langue courante, des verbes qui vont avec, et quelques substantifs, mais on n'y comprend rien. Et même, je dirais qu'un jeune juriste fraîchement diplômé de l'université aurait peut-être du mal à le déchiffrer. Vous voyez, alors, imaginez le citoyen ordinaire, la difficulté qu'il a. On reproche souvent au langage du droit d'être archaïque. C'est très vrai chez l'anglais, en common law, où il y a encore plus de termes latins que chez nous. Allez voir aux États-Unis ou en Angleterre. Nous avons petit à petit éliminé ou presque les expressions latines. Il y en a de moins en moins. Les professeurs hésitent à les employer. Donc les textes, les cours, le droit sont de plus en plus lisibles de ce point de vue-là par des jeunes avocats, par des jeunes juristes qui ne l'étaient il y a une vingtaine d'années. Dans mes cours, j'avais le professeur Marty Reynaud comme professeur de droit civil. C'était sans arrêt des phrases entières en latin, en droit de la famille, en droit des biens. Il fallait s'accrocher, il fallait noter. Vous voyez, c'était cette époque-là. À l'heure actuelle, je doute, dans tes cours en matière contractuelle, en matière de droit des biens, de la famille, que vous fassiez des citations de 4-5 lignes de latin, d'auteur à la fin. Donc, le français juridique, c'est considérablement éclairci, si vous voulez. Et il y a de moins en moins de difficultés. La difficulté, elle est souvent dans l'intention de celui qui rédige et dans sa formation. S'il est bien formé à rédiger, à écrire, et s'il écrit des textes qui sont compréhensibles et lisibles, alors on arrivera très facilement à le lire. Et je vais vous donner un exemple que j'ai relevé chez un sénateur. C'est pas un texte de droit, mais vous allez comprendre. Que certains textes, quand ils sont mal rédigés, ou volontairement mal rédigés, sont inévitables. Dans l'enquête à laquelle j'ai immédiatement fait procéder à la réception de votre lettre parvenue à mon cabinet le 14 août dernier, il résulte en effet
que les règles de l'art par l'adoption au fil des ans n'est pas plus convenu en accord avec le prédécesseur de l'actuel magistrat municipal. Donc elle témoigne un mépris d'orthodoxie des affaires de géologie de longue temps, au profit de la meilleure information du public en agissant du premier point évoqué, et de cohérence pour l'utilisation rationnelle de l'UP, s'agissant du second point déploré, ait été négligé. Si vous avez retenu l'idée principale du texte, bravo. Il faut le relire tranquillement. Alors, ce que je fais avec mes étudiants, quand j'ai le texte comme celui-ci, je découpe la phrase, je fais l'arborescence, et je prends le verbe principal, les compléments, les subordonnés, et on décortique et on arrive à comprendre ce qu'a voulu dire l'auteur du texte. Que ce soit un législateur, ou que ce soit tout simplement un avocat, ou un rédacteur quelconque. Et pour clore la question, regardez quand vous avez un texte comme celui-ci, dommage pour la Banque Royale, je n'ai rien contre elle, mais c'est ce texte-là. Si vous arrivez à le lire et ensuite à le traduire, sans difficulté, c'est du charabia. For valuable consideration, the seat whereof is earned by acknowledge of the acts and enemies present and future of any natural call the customer, to the undersigned or any of them are by deferred and postponed by the undersigned each of them for the tax, by these present and future and the customer. Il n'y a pas de point virgule là. Il n'y a pas de point. Il faut arriver ici. Non, les textes comme cela.
Mais là, il y a une intention de...
Vous savez, oui, c'est comme un exemple.
C'est de ne pas comprendre. Il doit avoir une commande.
J'ai eu affaire à de nombreux notaires ces dernières années, en Europe notamment, et j'ai eu des textes de 25 pages, etc. à lire sur place. Les gens renoncent à le faire. Renoncent. Au bout de 2-3 lignes, ils arrêtent. Parce que c'est dans un charabia semblable.
C'est la présence de l'honneur.
Voilà. Alors, pour ne pas vous décourager quand même, je veux faire voir que l'on peut arriver à rédiger une phrase longue et lisible, si je la retrouve. Je vais relever un petit texte. Voilà, on y arrive. Une phrase de 40 mots. Évidemment, allez le calmer, vous me direz. Mais, 60 mots. Ça peut être clair et lisible. Camus était aussi journaliste. Hein, et dans un reportage effectué en Cali, dans Alger Républicain, c'était en 1939, on le retrouve dans la Pléiade, hein, la collection de la Pléiade. Quand on aborde les premières pentes de la Kabylie, à voir ces petits villages groupés autour des points naturels, ces hommes drapés de veines blanches, ces chemins bordés d'oliviers, de figuiers, de cactus, cette simplicité enfin de la vie du paysage, comme cet accord entre l'homme et sa terre, on ne peut s'empêcher de penser à la Grèce. Tout le monde suit des phrases comme ça, sans difficulté, hein, parce que c'est un esprit clair, précis, qui décrit quelque chose, et on arrive à le suivre facilement. Par contre, si on veut... J'en tiendrai là, si on veut suivre Proust dans sa pensée. Eh bien, je retrouve. Mais oui, évidemment. Il faut que je retrouve la phrase de Proust. Voilà. Longtemps je me suis couché le bonheur. Oui. Mais on lit bien la recherche du temps perdu. Par contre, dans Proust, se met à écrire des phrases comme celle-ci, ou une lettre comme celle-ci, adressée à Antoine Gudesco au début de l'été 1902, où l'on voit que l'homme le plus compliqué de Paris, c'est Jacques Brion. Hein. Je l'ai relevé chez Jacques Brion dans le Nouvel Observateur. Vivait les rapports humains d'une façon bien à lui. En effet, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est moi qui dis ça. Cher ami, je me décide à ne pas me coucher aujourd'hui. Je serai donc visible tantôt. Seulement, je tâcherai de dormir l'après-midi tout de même. Et si vous pouviez passer avant d'aller chez les Dreyfus, ce serait mieux. Si vous ne pouvez avant, tout de suite après, ce serait bien aussi. Enfin, le mieux de tout serait de tout de suite après votre dîner ou tout de suite avant, de préférence tout de suite après. Enfin, si pour ce jour le terrible énervement causé par l'excès de fatigue, vous pourrez me donner le grand plaisir d'une visite, j'en serais très heureux. Si je dormais quand vous viendriez, vous remarquez le viendriez, revenez. vraiment me fixant sur l'heure de votre visite me fera grand plaisir pour que je puisse dormir sans inquiétude. Je ne sais pas si vous allez venir la minute suivante. Si vous ne pouvez venir à l'heure, à 1 heure, ou 2 heures, 3 heures ou plus tard, j'aime mieux que vous ne veniez pas avant 7 ou 9 heures du soir, parce que ça me donnera plus de temps pour me reposer. Si une visite exclut les autres, ce que je préfère à tout, est 8h30 du soir. Si vous venez en sortant chez le Dreyfus, amenez Rinaldo, pour que je vais, du reste, peut-être écrire. Mais dites-lui que l'après-midi, je dormirai.
Vous avez compris.
Je suis sûr qu'il ne savait pas à quelle heure il allait dormir.
Voilà. C'était trop tout craché. Il peut être très lisible dans la recherche du temps perdu. Parce que sa pensée est linéaire, on la suit très bien quand même. Alors que dans les textes juridiques complexes, hein, souvent des textes faits par des avocats pour une cause, disons, une future plaidoirie, la pensée est circonvolutive. Et la personne qui écrit pense en écrivant, vous voyez. Alors, il vaudrait mieux penser d'abord et écrire ensuite. Mais souvent, on manque de temps. On manque de temps et c'est ça le drame, je crois, le plus grave. On manque de temps pour rédiger comme il faut. Voilà. C'est d'ailleurs le reproche que tous les grands écrivains allemands, espagnols, italiens, français, anglais, américains font. Ils ont tous commis une lettre à quelqu'un de leurs amis ou famille. Mozart l'a fait aussi, dans laquelle il ou elle disait « Excuse-moi de faire aussi vite, je n'ai pas le temps d'écrire plus court. » De faire des lettres, des tartines comme la lettre de Proust, pour dire une chose tout à fait banale, en fait. Voilà, donc le temps manque, donc on rédige vite, et après il faut couper. Et puis couper c'est difficile, donc le texte perd de sa cohérence logique interne. Voilà.
Mais je crois que d'une certaine manière, bah, vous avez trouvé les mots que malheureusement il faut dire, c'est que le temps nous manque et c'est pas par défaut d'intérêt, bien au contraire, mais le temps nous manque pour continuer de discuter là-dessus. Et je m'en excuse auprès de ceux qui auraient voulu intervenir, mais c'est encore possible parce que, comme vous avez la tradition après les conférences, c'est de convier tous présents à aller prendre un verre. Et dans cette salle-ci, on n'a pas le droit de boire, de déranger, donc il faut aller prendre le verre dans la salle qui se trouve vis-à-vis, mais de l'autre côté, donc ce qu'on appelle la salle des Chinois, parce qu'on connaît la salle du CRDP. Donc là, il y a de quoi boire et de quoi continuer la discussion, si vous le voulez. Donc c'est à ça que je vous convie immédiatement, mais je vous convie aussi à la prochaine conférence du cycle qui aura lieu le mardi 21 novembre. Ici, aujourd'hui, nous avons parlé de langage. La prochaine fois, nous parlerons de musique. Et le titre de la prochaine conférence sera « L'interprétation musicale comme analogue à l'interprétation des lois ». Donc, c'est pour ça que vous êtes convié le mois prochain. Et pour le moment, allons prendre un verre autour de ces discussions. Merci encore.